2. Maurice Bellamy n'a pas faim du tout. Un bagel au fromage frais est tout ce qu'il arrive à avaler pour le déjeuner, et même pas en entier. Il bouffait comme un porc au début quand il est sorti. Big Mac, beignet, pizza, tous les trucs dont il avait rêvé quand il était en prison. Mais c'était avant une nuit passée à vomir ses tripes suite à une escale peu raisonnable à Señor Taco dans Lowtown. Il n'avait jamais eu de problème avec la nourriture mexicaine quand il était jeune. C'est-à-dire il y a à peine quelques heures, on dirait. Mais une nuit passée à genoux à prier devant l'hôtel de porcelaine était tout ce qu'il avait fallu à Maurice pour le ramener à la réalité. Il a 59 ans et il est au seuil de la vieillesse. Les meilleures années de sa vie, il les avait passées à teindre des jeans, vernir des tables et des chaises qui seraient vendues au magasin de sortie d'usine de Waynesville, et à rédiger des lettres pour un flot incessant de charlots minables en combinaison orange. Maintenant, il vit dans un monde qu'il reconnaît à peine. Un monde où on regarde des films sur des écrans surdimensionnés appelés IMAX, et où tous les gens dans la rue ont soit un casque sur les oreilles, soit un écran miniature devant les yeux. On dirait qu'il y a des caméras de surveillance dans tous les magasins. Et le prix des produits les plus basiques, le pain par exemple, 75 cents à l'époque où il s'est fait coffrer, sont tellement élevés qu'ils semblent irréels. Tout a changé. Il se sent comme aveuglé par trop de lumière. Il est complètement à la ramasse. Et il sait que son cerveau conditionné par la prison remontera jamais la pente. Son corps non plus. Raide quand il se lève le matin. Et douloureux le soir quand il se couche. Il imagine que c'est un début d'arthrite. Suite à cette nuit de vomissements et de diarrhée liquide et marronnasse, il avait tout simplement perdu l'appétit. Pour la nourriture, du moins. Il pense aux femmes. Comment ne pas y penser quand elles sont partout, les plus jeunes si courvêtues dans la chaleur naissante de l'été. Mais à son âge, il lui faudrait payer pour en avoir une de moins de 30 ans. Et s'il allait dans un de ces endroits où ce genre de transaction est possible, il enfreindrait les conditions de sa remise en liberté. S'il se faisait pincer, il serait renvoyé à Waynesville. Les carnets de Rothstein, toujours enterrés dans ce bout de friche, inconnu de tous, sauf de l'auteur lui-même. Il sait qu'ils sont encore là. Et ça rend les choses encore pires. L'envie folle de les déterrer et de les avoir enfin en sa possession est une idée fixe et obsédante. Comme un bout de chanson, « I need a lover that won't drive me crazy », qui vous rentre dans la tête et veut pas en sortir. Mais pour l'instant, il a presque tout fait dans les règles, en attendant que son agent de probation se détende et lâche un peu de lest. C'était l'évangile selon saint Warren Duck Duckworth, prêché à Maurice dès qu'il était devenu admissible à la conditionnelle.
« Va falloir que tu fasses super gaffe au début », lui avait dit Duck.
C'était avant la première audience de Maurice et la première apparition vengeresse de Cora Ann Hooper.
« Comme si tu marchais sur des œufs, tu vois. Parce que l'enculé se pointera quand tu t'y attendras le moins. Crois-moi sur parole. Si t'as dans l'idée de faire un truc qui pourrait te classer dans les comportements suspects, ils ont cette catégorie, attends après que ton AP soit passé te rendre une petite visite surprise. Après, tu pourras être peinard. Tu piges ?»
Maurice pigeait, ouais. Et Duck s'était pas trompé.